France Culture.
Les nuits de France Culture.
Au chapitre 11 des sept pendus de Léonide Andreïev, les condamnés à mort sont conduits en voiture vers la gare et le train qui les transportera sur le lieu de leur exécution. Aux cinq membres du groupe des révolutionnaires qui seront mis à mort, se sont joints deux détenus de droit commun qui connaîtront le même sort. C'était la lecture de ce 11e chapitre que poursuivait Vladimir Jankélévitch dans le 7e des 9 numéros de l'émission Le Livre de Chevet, dans lequel il présentait et commentait le roman de Léonide Andreïev. Un 7e épisode que son producteur, Jean-Vincent Bréchignac, ouvrait en interrogeant Vladimir Jankélévitch sur ce qui avait motivé l'écriture de l'essai philosophique sur la mort qu'il venait de publier. Le livre de chevet, Vladimir Jankélévitch, présente les 7 pendus de Léonide Andreïev, 7e des 9 épisodes, diffusé le 6 juin 1967 sur France Culture.
L'ORTF vous présente Le Livre de Chevet de Vladimir Jankélévitch, qui vous lira des extraits des 7 pendus de Léonide Andreïev.
Quelques années de notre siècle ont beau s'éloigner, elles ne dissipent pas, ou tout au moins elles ne paraissent pas dissipées, l'abominable odeur des massacres nazis ou de la bombe d'Hiroshima. Nous avons pu entendre récemment à la télévision un docteur allemand, blanchi par un tribunal, qui affirmait tranquillement que des monstruosités comme celle d'Auschwitz pouvaient renaître. Nous vivons une époque de consommation inégalement répartie et d'angoisse. Faut-il, Vladimir Jankélévitch, y déceler une origine de votre contribution si approfondie à l'étude de la mort ?
Je ne peux pas dire à proprement parler que mon livre soit né comme un témoignage de ces massacres et de notre époque. Ce livre m'a plutôt été inspiré par mon père, qui était médecin et qui s'est toujours intéressé au problème de la mort, qui voulait même faire un recueil des écrits de Tolstoï relatifs à la mort. Il projetait de les retraduire et de les réunir. Et puis, comme praticien, il était en contact avec la mort, il voyait des malades. Je ne dis pas qu'il les faisait mourir, mais il les voyait mourir. Mais par conséquent, il avait toute une métaphysique de la mort. C'est plutôt de mes conversations avec lui qu'est né mon livre. Mais naturellement, les choses dont j'étais témoin, les spectacles de notre époque, et surtout l'immense massacre, m'ont évidemment fortifié dans mon dessin. Je vais donc reprendre les lectures que j'avais faites les jours précédents, sur la demande de M. Bréchignac, puisqu'on m'interroge sur mon livre de chevet et sur le récit des 7 pendus, qui n'est pas à proprement parler mon livre de chevet, mais, comme je l'ai expliqué, un livre que mes parents lisaient et auquel je suis moi-même resté très fidèle et qui est très frappant, même hallucinant et obsédant. Dans les précédentes lectures, je rappelle que Léonide Andreïev a fait le portrait des 7 condamnés à mort et nous avions terminé par le dernier, le 7e, le plus énigmatique, le plus curieux, celui qui s'appelle Werner, de qui on ne sait rien et qui jette un regard d'aigle sur la vie et la mort. Dans les chapitres que nous lisons ce soir, Andreïev nous montre le voyage au bout de la nuit, le voyage vers la mort de ces 7 condamnés qui prennent le train et vont vers les lieux de la potence. On les mène au supplice, tel est le titre du chapitre dont je commence la lecture. Il commence comme souvent chez Andreïev par une description de la nature, enfin de le printemps, la nuit du printemps, qui contraste si étrangement avec le drame affreux qui se joue autour de ces 7 condamnés. Lorsqu'on arriva dans la cour, l'obscurité humide et tiède frappa doucement les visages et les yeux, coupa les respirations, s'insinua dans les corps frémissants qu'elle purifia. Il était difficile de croire que ce stimulant était tout simplement le vent, un vent printanier doux et moite. L'étonnante nuit de printemps sentait la neige fondue et faisait résonner les pierres. Vives et affairées, des gouttelettes d'eau tombaient en se poursuivant et leur chute composaient avec ensemble une chanson magique. Mais si l'une d'elles tombait plus lente ou plus rapide, tout s'embrouillait en un clapotis joyeux, en une confusion animée. Puis une grosse goutte sévère frappait avec force et, de nouveau, la chanson printanière, rythmée, murmurait. Au-dessus de la ville, plus haut que les murs de la forteresse, on distinguait le pâle halo des lumières électriques. Serge Golovin, c'est un des condamnés, je le rappelle, poussa un profond soupir. Puis il retint son souffle, comme s'il eût regretté de chasser de ses poumons un air si pur et si frais. « Y a-t-il longtemps qu'il fait beau ?» s'informa Werner. « C'est le printemps. »« Depuis hier seulement, » répondit-on avec politesse et empressement. « Il y a eu beaucoup de jours froids. » L'une après l'autre, les noires voitures arrivaient, prenaient deux personnes et s'en allaient, dans l'obscurité, vers le portail où vacillait une lanterne. Autour de chaque véhicule se mouvaient les silhouettes grises des soldats. Les sabots de leurs chevaux résonnaient avec force. Souvent, les bêtes glissaient sur la neige mouillée. Quand Werner se courba pour entrer dans le véhicule, un gendarme lui dit, d'une manière vague, « Il y en a un autre qui va avec vous. » Werner s'étonna. « Qui va où ? » ?»« Ah oui, encore un. Qui est-ce ?» Le soldat garda le silence. En effet, dans un angle obscur, se pelotonnait quelque chose de petit, d'immobile, mais qui vivait. Un œil ouvert brilla sous un rayon oblique de la lanterne. En s'asseyant, Werner frôla un genou de son pied. « Pardon, camarade. » On ne lui répondit pas. Ce fut seulement quand la voiture se mit en marche que l'homme lui demanda, en hésitant, en mauvais russe, « Qui êtes-vous ? » ?»« Je m'appelle Werner, condamné à la pendaison pour attentat contre X. Et vous ? » ?»« Je suis Jansson. Il ne faut pas me pendre. » Je rappelle que Jansson est le paysan estonien, ce moujik qui a tué son maître, je crois, et qui est un condamné de droit commun, mais qui meurt avec les condamnés politiques qui ont voulu tuer le gouverneur. Avant 2 heures, il serait face à face avec le grand mystère, jusque-là indéchiffré. Avant 2 heures, il sortirait de la vie pour entrer dans la mort. C'est là qu'ils allaient tous les deux et qu'ils firent connaissance. La vie et la mort marchaient simultanément sur 2 plans, et jusqu'à la fin, jusque dans les détails les plus risibles, les plus stupides, la vie restait la vie. « Qu'avez-vous fait, vous, Jansson ?»« J'ai frappé mon patron avec un couteau. J'ai volé de l'argent. » D'après le son de sa voix, il semblait que Jansson s'endormait. Werner trouva dans l'ombre sa main molle et la serra. Jansson la retira avec indolence. « Tu as peur ?» demanda Werner. « Je ne veux pas être pendu. » Ils gardèrent le silence. Werner trouva de nouveau la main de l'Estonien et la serra fortement entre ses paumes sèches et brûlantes. Elle resta immobile et Jansson n'essaya plus de la dégager. On étouffait dans la voiture trop étroite, qui sentait le renfermé, le drap de soldat, le fumier et le cuir des bottes mouillées. Un jeune gendarme, assis en face de Werner, lui soufflait sans cesse au visage une haleine puant l'ail et le tabac. Mais l'air vif et frais arrivait par les fentes, et l'on sentait la présence du printemps dans la petite boîte mouvante, avec plus de force encore que dehors. Le véhicule tournait, tantôt à droite, tantôt à gauche. Parfois, il semblait retourner en arrière. Par moments, il paraissait aux prisonniers qu'il virait en rond depuis des heures. D'abord, la lumière bleuâtre de l'électricité se glissait entre les rideaux épais, baissés. Puis, soudain, après un tournant, l'obscurité se fit. Ce fut à cet indice que les voyageurs devinèrent qu'ils étaient arrivés dans les faubourgs et s'approchaient de la gare de S. Parfois, à un contour brusque, le genou plié et vivant de Werner frôlait amicalement le genou plié et vivant du gendarme, et il était difficile de croire au supplice prochain. « Où allons-nous ? » demanda soudain Jansson. La trépidation continue et prolongée de la sombre voiture lui donnait le vertige et un peu de nausée. Werner répondit et serra plus fort la main de l'Estonien. Il aurait voulu dire des paroles particulièrement amicales et douces à ce petit homme endormi qu'il aimait déjà plus que personne au monde. « Cher ami, je crois que tu es mal assis. Rapproche-toi de moi. » Jansson garda le silence. Au bout d'un moment, il lui répondit « Merci, je suis bien. Et toi, on te pendra aussi ?»« Oui, » répliqua Werner, avec une gaieté inattendue, en riant presque. Et il eut un geste aisé et dégagé, comme s'ils avaient parlé d'une plaisanterie futile et bête que voulaient leur jouer des gens affectueux, mais terriblement farceurs. « Tu as une femme ?» demanda Jansson. « Une femme ? Moi, non, je suis seul. » « Moi aussi, je suis seul. » Werner commençait à avoir le vertige. Par moments, il lui semblait qu'il se rendait à une fête. chose bizarre, presque tous ceux qui allaient au supplice avaient la même impression. Bien qu'en proie à la peur et à l'angoisse, ils se réjouissaient vaguement de la chose extraordinaire qui allait se passer. La réalité s'enivrait de folie et la mort, s'accouplant à la vie, engendrait des fantômes. « Nous voilà arrivés, » dit Werner, avec une curiosité joyeuse, lorsque la voiture s'arrêta. Il sauta aisément sur le sol. Il n'en fut pas de même pour Janson, qui résistait, sans mot dire, très paresseusement, semblait-il, et qui refusait de descendre. Il se retenait, tantôt à un angle, tantôt à la porte, à la haute roue, et cédait à la première intervention du gendarme. Il se collait aux choses plutôt qu'il ne s'y agrippait, et il n'était pas nécessaire de déployer beaucoup d'efforts pour l'en détacher. Enfin, on eut raison de lui. Comme toujours, pendant la nuit, la gare était sombre, déserte et inanimée. Les trains de voyageurs étaient déjà passés. Et pour le train qui attendait les prisonniers sur la voie, il n'y avait pas besoin de lumière ni d'agitation. L'ennui s'empara de Werner. Il n'avait pas peur, il n'était pas angoissé, mais il s'ennuyait d'un ennui immense, lourd, fatigant, qui lui donnait envie de s'en aller n'importe où, de se coucher et de fermer les yeux. Il s'étira et bâilla vivement à plusieurs reprises. « Si seulement on allait plus vite, » dit-il, exténué. Janson garda le silence et frémit. Lorsque les condamnés passèrent sur le quai désert, entourés de soldats, pour se diriger vers les wagons mal éclairés, Werner se trouva placé à côté de Serge Golovin. Serge Golovin, je le rappelle, est celui qui est plein de vitalité, qui faisait des exercices physiques à la prison. Celui-ci désigna quelque chose de la main et se mit à parler. Son voisin ne comprit distinctement que le mot « lampe ». Le reste de la phrase se perdit dans un bâillement las et prolongé.
C'était « Le livre de chevet » de Vladimir Jankélévitch. Une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Aujourd'hui, Vladimir Jankélévitch vous a lu des extraits du livre de Léonid Andreïev, Les Sept Pendus, et vous a interprété au piano La mort rôde de Gabriel Dupont et un extrait de Goyescas de Granados. Assistante de réalisation, Gilberte Samba.
Venez d'entendre le 7e des 9 épisodes du livre de chevet de Vladimir Jankélévitch. Première diffusion le 6 juin 1967 sur France Culture. À suivre.